nous allons traiter une question très délicate aujourd'hui, qui est la différence entre l'homme et la femme et leur relation à l'intérieur du mariage. Alors, je me réjouis qu'on ait eu un texte ce matin sur la sagesse, parce que c'est bien la sagesse que nous recherchons. La sagesse, c'est la connaissance du mystère de Dieu et la connaissance des choses de la terre dans la lumière de Dieu. C'est rentrer progressivement dans le regard de Dieu. Alors pour éclairer cette question de la différence entre l'homme et la femme, il m'a semblé important de partir d'une réflexion sur l'amour, mais en se laissant éclairer par le mystère de l'Église. La dernière fois, nous avions vu l'Église comme un corps qui rend la présence de Dieu visible dans le monde, qui rend Dieu sensible, comme dit Benoît XVI. Il y a tant de personnes qui ne sont pas capables de rencontrer Dieu dans la prière et qui ont besoin de voir des croyants qui soient lumineux de la lumière de Dieu. Donc, l'Église comme corps du Christ, c'est l'Église instrumentale, instrument de la présence et de l'amour de Dieu dans le monde. Et l'Église enseigne qu'elle est le corps du Christ, mais avant d'être le corps du Christ, elle est l'épouse du Christ. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour être témoin de la présence de Dieu dans le monde, on a besoin d'abord d'être uni à Dieu profondément. Donc on ne peut pas réaliser notre mission de laisser passer Dieu dans le monde sans être d'abord se laisser pénétrer par Dieu. Se laisser toucher, se laisser épouser, et se laisser embraser d'amour pour celui qui nous touche. Ici, je reprends une image traditionnelle qui est celle du fer. Vous voyez, le fer, il s'approche du feu de l'amour divin, et il devient lui-même incandescent. Il devient comme le feu, il brûle du même feu. Et c'est un peu ça, nous nous rapprochons de Dieu dans un mystère d'amour, d'union, et nous laissons passer le feu de son amour dans le monde. Je demande à Jésus, dit la petite Thérèse, de m'attirer dans les flammes de son amour. Qu'est-ce que ça signifie, se laisser brûler par le feu de l'amour divin pour communiquer ce feu aux autres? Mais ça veut dire qu'à la base de tout, il y a le fait d'accueillir l'amour gratuit de Dieu, de se laisser aimer. Nous sommes ainsi faits que nous ne pouvons pas aimer en vérité, aimer d'un amour pur qui vient de Dieu, sans nous laisser aimer d'abord. En ceci consiste l'amour, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Qu'est-ce qui se joue à travers cette question de se laisser aimer pour aimer? Il se joue la possibilité de me laisser vraiment attirer par celui qui m'aime le premier, de me laisser toucher en profondeur, de telle manière que je puisse réellement sortir de moi-même. C'est-à-dire, si je ne me laisse pas toucher par l'amour premier de Dieu, je ne peux pas vivre ce qu'on appelle l'extase, c'est-à-dire cette sortie de soi, cette véritable sortie de soi, de la prison de notre moi, pour pouvoir vivre d'une vie d'amour. Et Saint Jean de la Croix, au début de la nuit obscure, décrit la joie de l'âme qui est enfin libérée d'elle-même, qui qui est sortie d'elle-même et qui rentre dans ce qu'il dit, dans une vraie vie d'amour, d'un amour pur, désintéressé. Et donc, si je ne peux pas sortir de moi-même et m'offrir vraiment aux autres, dans l'oubli de moi-même, sans me laisser d'abord toucher, à ce moment-là, on peut dire qu'il n'y a pas d'amour véritable sans passivité. Que la difficulté dans notre vie d'amour, ce n'est pas de vouloir donner, de vouloir aimer. La difficulté dans notre vie d'amour, c'est d'abord de nous laisser. C'est se laisser aimer, se laisser faire, se laisser toucher. Écoutez la petite Thérèse. Le mérite ne consiste pas à faire ni à donner beaucoup, mais plutôt à recevoir. Et là, il y a une petite conversion de notre manière de voir l'amour, parce qu'on voudrait tout de suite chanter « Aimer, c'est tout donner ». Mais aimer, c'est d'abord se laisser aimer. Pourquoi on a tant de mal à se laisser aimer vraiment par Dieu? Parce qu'on pressent que si on se laisse vraiment toucher par lui, il n'y a pas d'échappatoire. Comme c'est un amour brûlant, infini, ça ne peut nous conduire qu'à un abandon total. On sent bien que si on se laisse toucher vraiment, on ne peut que se lâcher soi-même, se perdre, comme dit Jésus, celui qui perd sa vie à cause de moi. Et de plus, le péché originel a abîmé la confiance en nous. Il fait que nous avons perdu notre cœur d'enfant. Écoutez le Concile, disant que si l'homme existe, c'est que Dieu l'a créé par amour, et par amour ne cesse de lui donner l'être. L'homme ne vit pleinement selon la vérité que s'il reconnaît librement cet amour et s'abandonne à son Créateur. Voilà, nous ne sommes vraiment pleinement nous-mêmes, pleinement humains, que nous, quand nous acceptons de nous recevoir tout entier de cet amour premier et gratuit. Personne ne peut rentrer dans le royaume de Dieu s'il ne redevient comme un tout petit. Retrouver un cœur d'enfant, c'est le plus grand combat de notre vie. Ici, je fais une petite parenthèse, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent à Dieu la force d'aimer. Ils ont conscience que Dieu est la source. Alors, mon Dieu, donne-moi la force d'aimer les autres. Bon, c'est bien, on prie ça, mais on ne se laisse pas aimer. Donc, après, on dit, ça ne marche pas. Non, parce que l'amour ne peut naître en nous qu'à partir, encore une fois, de cette passivité du cœur de l'enfant qui fait que cette attraction que l'amour divin exerce sur nous, nous donne la grâce de sortir de nous-mêmes, de nous offrir vraiment à Dieu et aux autres. Si on reprend l'évangile de Marthe et de Marie, Jésus dit à Marthe, « Marthe, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, une seule suffit. La seule chose qui suffit, c'est Marie qui est là et qui écoute la parole du Christ, qui est assise au pied de Jésus et qui écoute sa parole. » Alors ici, nous avons le regard de Jésus sur ce qui est absolument nécessaire dans la vie. Qu'est-ce qui est absolument nécessaire dans la vie? C'est d'écouter la parole de Dieu. Apparemment, ça suffit. Tu as du mal à y croire, mais une seule chose suffit, que tu restes à mes pieds et que tu écoutes ma parole. Qu'est-ce que ça veut dire si ce n'est écoute ma parole d'amour, laisse-toi toucher par cette parole, et ensuite c'est l'amour qui agira en toi. Ensuite, tu pourras faire tout ce que tu as à faire, parce que tu te seras laissé d'abord pénétrer par mon amour. Et donc, ce que je veux souligner ici, c'est qu'il y a une manière très simple d'apprendre à se laisser toucher par Dieu, toucher par son amour, c'est d'écouter sa parole. Dans la mesure où nous nous laissons toucher par lui, dit Benoît XVI, nous devenons nous-mêmes, à partir de sa pureté, des personnes pures, des personnes qui aiment avec son amour. Nous aimons comme nous nous laissons aimer. Jésus dit lui-même, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Et il nous dit ensuite, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et Benoît XVI a cette belle expression, il dit que l'amour descend. Il descend d'un principe unique qui est le Père, qui est le seul à aimer sans se laisser d'abord aimer. Cet amour passe dans le Fils, et Jésus lui-même veut laisser passer cet amour en nous. C'est toujours le même amour qui descend. Mais vous voyez, je vous ai dit que la passivité, la première manière de la vivre, c'est d'écouter la parole. La parole, c'est dans la Bible, d'accord. Mais la parole, c'est aussi les événements qui nous parlent. C'est lui, l'événement. Donc accueillir l'événement, accueillir l'imprévu, c'est aussi rentrer dans une passivité qui fait qu'on se laisse faire par Dieu. Nous avons un même oui, un même fiat, un même que ta volonté soit faite, voyez, à prononcer face à la parole, aux paroles que Dieu nous adresse et face aux événements de notre vie. Et le modèle de ce oui, il est d'abord dans Christ. C'est lui qui... Il n'y a eu que oui en lui, dit saint Paul. Et à ce oui du Christ à son Père, fait écho le fiat de Marie. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et donc en fait, toute notre vie devrait naître, jaillir d'un consentement à l'amour divin, à travers un consentement à ce qu'est notre vie, à ce que le Seigneur nous donne de vivre et de supporter. Et en fait, c'est ça la foi, c'est cette attitude d'accueil.
Cette semaine, maman n'allait pas bien, je lui téléphone et je lui lis des passages de Jean-Paul II sur la souffrance offerte, etc., parce qu'elle ne pouvait que parler. Donc je lui dis, est-ce que ça te fait plaisir si je te raconte des histoires? Elle a réussi à me faire comprendre que oui. Et donc je lui ai lu l'histoire de Jean-Paul II quand il souffrait, de l'offrande, etc. Et elle a pu me dire qu'elle était contente. Et après, moi-même, je devais aller à la préfecture de police de Paris faire un papier. J'y retourne pour la quatrième fois, j'arrive pas à l'obtenir. Et j'y vais et j'arrive à la préfecture de police, on me fait attendre sur la place. Je finis par réussir à rentrer. Une fois rentré dedans, il y avait 250 personnes devant moi à faire la queue. Donc je me suis dit, je vais y passer toute l'après-midi. J'étais un peu catastrophée. Et puis au bout d'un moment, il y a une femme qui vient me voir qui me dit, vous pouvez partir, de toute façon, on ne vous prendra pas. Donc j'avais fait tout ça pour rien, donc il fallait que je rentre à la maison, j'étais très en colère et je me suis dit bon, j'ai parlé à maman de la souffrance offerte, machin, alors elle fait un effort, recueille-toi, et puis alors je me mets intérieurement, je me dis bon Seigneur, je t'offre ces tracasseries administratives pour les chrétiens qui vivent ça dans les pays de persécution. Et je rentre chez moi, dans la boîte aux lettres, il y a une famille chrétienne, et dans l'ascenseur, j'ouvre famille chrétienne, et je tombe sur un passage qui nous expliquait les tracasseries administratives des chrétiens au Vietnam. Alors, je me suis dit, c'était une réponse directe à l'offrande que j'avais essayé de faire avec ma mauvaise humeur, et je me suis dit vraiment, le Seigneur, c'est là que j'offre pour eux. Et donc, ça suffisait pas de dire à maman, il fallait que je le fasse avec elle.
On voudrait tout maîtriser, évidemment. Hein. On voudrait aimer de soi-même sans avoir à dépendre de Dieu. Mais la vie n'est pas faite comme ça. C'est en accueillant les choses qu'on arrive à les changer vraiment. Notre vie, nous sommes faits pour vivre dans une passivité active. Une passivité qui devient action ensuite. À partir de là, on peut comprendre le double profil de l'Église. L'Église comme corps du Christ, l'Église active comme membre. Nous sommes membres du corps du Christ, appelés à agir, à aimer. Et puis le profil qu'on appelle le profil marial, qui est ce profil dans lequel, qui nous conduit à nous laisser d'abord pénétrer par l'amour divin, dans une attitude d'écoute. C'est Marthe et Marie, mais il faut partir du principe que nous sommes faits tous pour être à la fois Marthe et Marie. Il y a simplement des personnes qui sont plus facilement dans l'écoute, dans l'accueil, dans la prière silencieuse, et puis d'autres personnes qui sont plus facilement dans l'activité, dans le service des autres. La petite Thérèse, au départ, elle voulait être missionnaire. Elle voulait même être prêtre. En tout cas, elle voulait être martyre et docteur. Et tous ces vouloir faire pour Dieu étaient en fait impossibles, étant donné son état de carmélite. Donc, elle cherchait comment réaliser malgré tout ses désirs, et elle a trouvé. Ô Jésus, mon amour, ma vocation, enfin je l'ai trouvé, ma vocation c'est l'amour. J'ai trouvé ma place au sein de l'Église. Au cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Et quand il dit ça, il dit ce cœur totalement ouvert à l'amour divin, qui se laisse faire, qui laisse Jésus nous communiquer tout ce qu'il a à nous communiquer. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est qu'une personne qui se laisse entièrement pénétrer par Dieu, qui accepte de rentrer dans cette grande... dans cette grande ouverture à l'amour gratuit de Dieu, et bien ensuite elle laisse passer cet amour, pas seulement dans sa vie, mais dans la vie des autres. Alors, écoutez, regardez comment elle parle à un missionnaire. Elle dit, je puis faire moi-même bien peu de choses, et plutôt absolument rien. Mais je pense qu'à vos côtés, je peux servir à quelque chose. En effet, le zéro par lui-même n'a pas de valeur, mais placé près de l'unité, il devient puissant. Pourvu toutefois qu'il se mette du bon côté, après et non pas avant. On voit des personnes, on pense à la petite Thérèse, on pense à Marthe Robin, on pense à des saints qui n'ont pas eu beaucoup d'activité extérieure, mais qui se sont laissés chaque jour davantage pénétrer par Dieu. Et qui ensuite laissé passer pour les autres. De toute manière, c'est le zéro, qui est le zéro de cette passivité, voyez, et qui rend l'action des autres beaucoup plus féconde. Alors, actuellement, dans l'Église, on cherche beaucoup de zéro. Il y en a qui se sentent... Bien.
Qui veut bien être le zéro.
Ah oui, heureusement qu'on a les tout petits pour nous donner l'exemple. Bon, c'est bien, et vous allez me dire quel rapport avec l'homme et la femme.
La femme c'est le zéro et l'homme c'est le zéro.
Écoutez, on est dans une... culture qui est matérialiste plutôt, donc on va partir de la matière. Bien, si on regarde la matière, personne ne peut nier le fait que la femme porte dans son corps une ouverture qui la rend capable d'accueillir, de se laisser pénétrer. et ainsi de devenir féconde. On ne peut pas porter le fruit qu'est l'enfant sans se laisser d'abord toucher et même pénétrer. Et Saint Paul nous dit que la relation entre l'homme et la femme est analogue entre la relation entre le Christ et l'Église. Que l'homme tient plutôt à ce niveau-là la place du Christ et que la femme tient plutôt la place de l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la femme, dans son humanité propre, hein, elle est l'image de l'âme épouse face au Dieu époux. Et donc, quelque part, elle révèle à l'homme ce qu'il est face à Dieu. Et c'est pour ça que Saint Paul dit, ce qu'on n'ose pas dire habituellement, mais Saint Paul dit que la femme est le reflet de l'homme. Pour comprendre ce que je suis, moi, j'ai besoin de regarder la femme. Pour comprendre ce mystère d'ouverture, d'accueil, de passivité au sens d'un se laisser aimer, l'homme a besoin de reconnaître et de respecter la femme dans sa grâce propre. Il a particulièrement besoin de contempler la femme qui s'est laissée totalement pénétrer par Dieu et qui est Marie, qui possède le secret de l'amour pur. Marie présente à l'Église le miroir où cette dernière est invitée à reconnaître son identité et les dispositions de son cœur, les attitudes, les gestes que Dieu attend d'elle. C'est le cardinal Ratzinger qui présente donc Marie comme le miroir de l'Église. La femme est le reflet de l'homme. C'est la même pensée. Évidemment, il s'agit simplement ici de prédispositions naturelles. Tout le monde sait la capacité qu'ont les femmes à écouter, à accueillir. Et comme le dit le cardinal Ratzinger, il s'agit d'attitudes qui devraient être le fait de tout baptisé. Il appartient de manière caractéristique à la femme de les vivre avec une particulière intensité et avec naturel. Il y a un théologien orthodoxe, Paul Evdokimov, qui a dit que la femme, c'était le sexe fort au niveau religieux. Et si on peut parler de sexe fort au niveau religieux, c'est en situant sur ce terrain de la capacité, de la prédisposition plus grande qu'elle a à se rentrer dans cette loi du se laisser aimer pour aimer. Donc à partir de là, on peut mieux comprendre l'avantage de la femme sur l'homme. Mais je vous rassure, après, je parlerai de l'avantage de l'homme sur la femme. Mais on va être galant, on va d'abord mettre en évidence que cette prédisposition à l'accueil de l'autre, d'une certaine manière, me semble, explique la grande sensibilité de la femme, la capacité qu'elle a de ressentir et de voir les choses en se laissant toucher par les choses davantage.
Il est vrai que c'est la femme, cette capacité d'accueil, et en même temps, ça peut être, c'est pas toujours facile non plus d'être dans cette dimension d'accueil et de le vivre, et de vivre cette dimension à chaque niveau de son être. Donc il est important de se rappeler que c'est un chemin. Et que quelquefois, selon ce que l'on a vécu, selon notre histoire, il est plus ou moins facile de vivre cette dimension d'accueil et d'être dans la passivité. Et donc, c'est important de respecter ses fragilités, ses blessures, s'il y en a eu, et d'avancer pas à pas. C'est vraiment un chemin qui peut prendre du temps.
Le cardinal Ratzinger a cette belle expression. Il dit que la femme a le sens et le respect des choses concrètes. À partir de cette capacité d'accueil qu'elle a, elle a une proximité avec la réalité concrète des choses. Disons, une intelligence, j'ai envie de dire, une intelligence plus passive. Une intelligence qui reçoit. Mais en vérité, la vérité, c'est pas nous qui la fabriquons. La vérité, elle se reçoit. On s'ouvre à la vérité des choses. On accueille le réel. On ouvre les yeux du corps et les yeux du cœur. L'homme, lui, est plus tenté de vouloir maîtriser tout de suite les choses et donc de plaquer des idées sur la réalité. Il est dit à propos de Marie qu'elle gardait avec soin toutes ces choses, les retenant dans son cœur. Donc elle écoute ce que disent les bergers au moment de la nativité, hein, et il est dit qu'elle les garde, ce qu'elle accueille, elle le garde, elle le retient dans son cœur. Vous voyez la capacité qu'a la femme de porter les personnes et les situations. Et de ce fait, d'entrer dans la compassion. Cardinal Wojtyla, pendant le concile, a écrit un livre, Amour et responsabilité, où il dit « L'homme veut aimer pour être aimé, et la femme veut être aimée pour aimer. Bon. » Il y a ces deux mouvements en toute personne humaine, c'est évident, hein, mais qu'il y ait, disons, une proportion plus grande de la part de l'homme de vouloir être celui qui aime pour être aimé, la femme de ressentir ce besoin d'être aimé pour aimer, c'est quelque chose que l'on peut méditer. Il y a aussi une différence, c'est que l'homme, dans son vouloir aimer, va vivre plus spontanément ce vouloir aimer comme un vouloir faire pour l'autre, un vouloir montrer son amour à travers l'action. Il a moins le sens que aimer, c'est d'abord ouvrir son cœur et être présent à l'autre. En même temps, il rappelle quelque chose d'important, c'est que aimer, c'est aussi vouloir du bien à l'autre. Donc servir l'autre. Je reviendrai là-dessus. À propos de la femme, cardinal Ratzinger a cette expression. Elle a une capacité de l'autre. C'est radical comme une capacité de l'autre. Je dirais que l'homme a une capacité de faire pour l'autre. Le danger du côté de l'homme, vous le comprenez à ce niveau-là, c'est d'un faire pour l'autre qui ne prend pas le temps de l'écoute, de l'accueil, qui donc risque de ne pas avoir cette clairvoyance, cette intelligence du cœur, cette sagesse du cœur, qui fait qu'on a le geste juste au moment juste. En parlant avec un des couples de l'équipe, la personne me disait que dans le livre Mars et Vénus, hein, on dit que la femme est plus dans la relation et l'homme plus dans la compétence. Bon, ça rejoint ce que je vous dis là, hein, mais vous comprenez que le savoir-faire sans vraie ouverture à l'autre conduit à manquer de respect, finalement, du sens des vrais besoins et du respect, finalement, aussi de l'autre. Écoutez, cardinal Ratzinger, la femme a le sens et le respect des choses concrètes qui s'opposent aux abstractions souvent mortifères pour l'existence des individus et de la société. Les idéologies, c'est masculin. Elles naissent tous d'un manque de passivité de l'intelligence. On veut dominer par la raison, à raisonner le réel. La technologie. On voit bien que la technologie, les hommes peuvent se délecter dans la technologie et parier sur la technique pour changer le monde. Et la femme a comme un instinct en elle qui lui dit « Oh, 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 attention !» Attention, les personnes humaines, ça s'accueille, ça s'écoute, ça se porte dans le cœur. Le programme du chrétien, a dit Benoît XVI dans son encyclique, c'est un cœur qui voit. Ça, c'est la réponse à la tentation d'une action en fonction de programmes qu'on applique, dans lequel on a l'impression qu'on va pouvoir maîtriser les situations, alors qu'en réalité, on a constamment besoin de la sagesse, de la lumière divine, d'accueillir un regard qui est plus profond, qui nous permet de comprendre, de respecter le réel, de respecter l'autre. On comprend aussi le danger pour la vie d'un couple, hein, entre un homme qui s'enfermerait dans « je fais, je me dévoue, je fais, je travaille, hein, je gagne pour la famille, et donc je vous aime, mais sans être jamais vraiment présent.
» C'est vrai qu'on est très poussé par ça dans le monde professionnel, à être dans l'action, prendre des décisions, etc. etc. Mais en même temps, tout ce que j'entends là, au fil des années, m'oblige à me dire non, il faut que je prenne du recul, il faut que j'écoute, j'écoute plus, et j'écoute pas assez, etc. Donc voilà.
Alors, à l'intérieur de la vie de l'Église, ce piège pour l'homme d'un fer qui soit coupé d'un accueil profond, on ne se laisse pas d'abord toucher à la fois par Dieu et par les autres. Ben, ça donne quoi? Ça donne ce que Benoît XVI a dit aux évêques suisses, c'était en 2006. Nous aussi, nous courons un risque. On peut faire beaucoup, tant de choses dans le domaine ecclésial, tout pour Dieu, et ce faisant, se tenir totalement à l'écart sans jamais rencontrer Dieu. Ça donne le vertige, hein? On peut faire tout pour son conjoint, et ce faisant, se tenir totalement à l'écart sans qu'il y ait jamais de vraie rencontre. Mais ces choses-là se jouent en réalité d'abord dans la relation à Dieu. C'est dans la relation à Dieu que j'apprends la passivité, que j'apprends l'accueil, et ensuite ça rejaillit en relation aux autres. Alors, la femme, elle a plus le sens de la de l'accueil, donc du toucher. En fait, elle a plus le sens de l'amour comme communion, comme union. Il y a deux aspects dans l'amour, l'amour qui recherche l'union et puis l'amour qui recherche le bien de l'autre. Du fait que la femme a plus le sens de l'union, de l'amour comme force unitive, on va dire ça avec saint Thomas d'Aquin, si elle ne se laisse pas d'abord attirer par Dieu, si elle ne vit pas cette union, elle est d'abord dans sa relation à Dieu. Je dis simplement le revers, hein, de ce sens de l'amour comme union. Si la femme ne se laisse pas d'abord combler par Dieu, ne vit pas d'abord cette union dans sa relation à Dieu, c'est le danger d'un amour possessif. J'accueille et je garde. On peut être très affectif dans le sens d'un amour, on va dire fusionnel, d'un amour qui recherche l'union, mais d'une manière restant au niveau, à ce niveau affectif, on peut être très affectif sans avoir un cœur ouvert. Mais il faut bien distinguer l'amour véritable, qui est l'ouverture du cœur à l'autre, et puis un amour qui recherche l'union, mais sans qu'il y ait une véritable ouverture de cœur. Et dans la mesure où la femme reste à un niveau, au niveau des sentiments affectifs, au niveau psychique, eh bien, elle va manquer de discernement, parce que ce ne sera pas la sagesse du cœur, mais elle se laissera plutôt entraîner par ses passions. Et de plus, si elle se laisse prendre par l'esprit de possession, elle risque aussi d'être vraiment indisponible à Dieu. L'homme risque d'être indisponible à Dieu parce que pris par le fer, hein, comme dit Benoît XVI, hein, l'homme est occupé entièrement par son monde, par les choses matérielles, par ce qu'il peut faire, par ce qu'il peut réaliser pour connaître le succès, par tout ce qu'il peut produire ou comprendre. Bon, et sa capacité de percevoir Dieu s'affaiblit, mais la femme, si elle est moins prise par le fer, eh bien, elle peut par contre se laisser prendre par l'amour possessif. Et notamment dans la relation aux enfants. Et donc à ce niveau-là, c'est évident qu'il y a purification de l'affectivité, hein, qui est là pour permettre de dégager le cœur, si je puis dire, de vivre les choses, de suivre un chemin d'intériorité.
Alors c'est vrai que c'est pas toujours simple d'être au bon niveau, à la fois pouvoir vivre ses sentiments et ne pas se laisser enfermer. Quelquefois, effectivement, la femme, elle peut être déçue. Elle attend beaucoup de son mari, on le voit si son époux est à l'extérieur, si elle manque d'attention, si voilà, elle peut quand même par moments se sentir fragile et perdre soit de l'estime d'elle-même, soit de la confiance. Et là, elle peut le risque, c'est qu'effectivement, elle peut se centrer sur ses enfants. Hein, ce sont les enfants qui sont les plus importants et quelque chose où un mouvement où elle peut devenir un peu elle peut tenir ses enfants un peu captifs. Captive dans le sens, elle peut établir avec eux une relation fusionnelle de laquelle le père en fait est exclu. Hein, et donc il y a un mouvement entre le qui est interrompu là. Ça peut être le danger et il est vrai que c'est important qu'à ce niveau-là, la femme essaye de prendre conscience des attentes qu'elle a par rapport à son mari, de ce qu'elle projette.
Je suis en train de réfléchir au fait que dans la relation aux enfants, la femme n'est plus dans un se laisser aimer. Elle est dans celle qui donne de l'amour à ses enfants. Donc elle passe à côté de ce qui est son secret, à moins de précisément de vivre d'abord sa maternité face à Dieu, en se laissant aimer par Dieu dans sa vie, dans ce qu'elle fait pour ses enfants, de telle manière à laisser passer l'amour de Dieu pour ses enfants. Mais sinon, elle se retrouve finalement dans une position où il n'y a plus de place pour une vraie passivité. Mais un amour captatif.
Là où je portais son attention, c'est effectivement quand la relation elle devient duelle. Hein, il y a les parents, le père, la mère, les enfants. Et si la relation s'établit uniquement entre la mère et les enfants, si le père est exclu, là il y a quelque chose qui peut engendrer de la souffrance.
L'homme de son côté, qui a qui est plus spontanément dans le faire pour les autres. S'il vit son besoin de faire pour les autres, d'aimer les autres en leur faisant du bien, en faisant des choses pour eux, s'il le vit dans la relation à Dieu, à l'intérieur de la relation à Dieu, à ce moment-là, il peut vivre ce faire comme serviteur. Serviteur des autres devant l'unique maître qui est Dieu. Ici, je repense à la parole du Seigneur. Je vous ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami, à ses apôtres. C'est-à-dire que l'espérance qu'une vie de service, mais vécue devant Dieu, l'unique maître, peut conduire finalement à entrer dans l'intimité du maître, à entrer dans un amour sponsal, à entrer dans cette dimension mariale, à se laisser finalement rejoindre et toucher par l'amour, par le maître qu'on aura servi, sans jouir encore de son intimité. Alors, chez l'homme, il peut y avoir quelque chose de fort à ce niveau-là, c'est que s'il il assume, je dirais, sa grâce de serviteur, il peut avoir ce sens de l'absolu qui est la volonté du maître. Prenez un saint Ignace de Loyola, qu'est-ce que, règle de discernement, je me remets devant la volonté de Dieu. Et tout, je me rends indifférent au reste. Une seule chose compte, la volonté du maître, la volonté du roi, la volonté de mon seigneur. Ici, en fait, l'homme s'ouvre progressivement, apprend à se laisser aimer en rentrant d'abord dans l'obéissance. L'obéissance au niveau de l'action. Et cette obéissance, elle est en même temps le critère objectif de la vérité de notre amour. Il ne faut pas que les femmes l'oublient non plus, ça. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux. Il ne s'agit pas d'abord d'éprouver des grands sentiments vis-à-vis de Dieu, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux, dit Jésus.
Si on est soucieux d'être dans cette obéissance, on peut se retrouver face à des situations où on se pose en vérité la question de savoir comment on doit s'orienter. Moi, je l'ai prouvé à titre personnel sur deux niveaux différents, dans le déroulement d'une carrière, parce que quelque part, je me faisais bouffer par mon travail, si je puis dire, de plus en plus, et donc, à un moment donné, on se dit, est-ce que je continue, est-ce que je continue pas? Je me souviens qu'on en a parlé à un moment donné, on avait des discussions avec Anne-Claire, où je lui ai dit, à un moment donné, alors je donne ma démission de mon boulot, quoi, parce que c'est tellement bon. Qu'est-ce que je fais? Donc c'est pas simple, parce que en même temps, on vous appelle pour peut-être des talents qu'on a, donc c'est pas si simple que ça à discerner. Et puis la deuxième chose, c'est aussi dans le quotidien. C'est-à-dire que quand on est pris par un travail très, très prenant, il arrive un moment où on laisse filer, on peut avoir une vie spirituelle moins structurée, moins quotidienne, on se laisse prendre par le quotidien, et comment on fait? Et on n'en rajoute pas pour le plaisir d'en rajouter. Ce qui me concerne, c'était ce que j'ai essayé de faire. Et je pense que ce qui a été vraiment une grâce du mariage, c'est qu'Anne-Claire a été près de moi tous les jours pour me dire « attention, attention ». Enfin, c'était le feu orange clignotant pour me dire « te laisse pas manger par ton travail ». Et la seule réponse que moi j'ai pu avoir, avec beaucoup de... vraiment dans le sens de ce que disait Géraud tout à l'heure, c'est vraiment dans le quotidien de jamais se dire « basta ». Quoi. Basta, c'est je m'occupe de mon boulot, puis le reste on verra bien. Et d'être finalement rattrapé au quotidien, très petitement, quelquefois, c'est quoi, c'est prier 5 minutes, ça m'est arrivé souvent de prier 5 minutes dans ma journée, c'est rien du tout, 5 minutes dans une journée, et en même temps, de ne sait jamais se dire, voilà.
Ce qui est beau dans la vie spirituelle des femmes, c'est de voir comment, quelquefois, vraiment, elles arrivent à une vraie passion amoureuse pour Dieu. Vous voyez ? C'est l'élan du désir, la soif de se perdre en Dieu, de vivre vraiment, de se laisser totalement pénétrer, remplir par lui. L'homme peut avoir un peu un complexe par rapport à ça. Quand dit un homme que l'âme est toujours épouse face au Dieu époux, il dit ah oui, bon. Bon. La parole de Jésus, je vous appelle plus serviteur, mais mes amis, reste toujours vraie. C'est-à-dire que, au-delà de ses prédispositions naturelles, l'âme est de fait créée pour épouser, se laisser épouser par Dieu, entrer dans les noces, la salle des noces éternelles. Et donc, l'homme peut vivre sa relative sécheresse au niveau spirituel, il peut la vivre dans l'espérance, en gardant la nostalgie d'un jour pouvoir rentrer dans l'intimité du maître. Et ça rejoint ce que disait Philippe, c'est-à-dire pas s'enfermer dans son, disant, mais moi je suis comme ça, ma femme est comme ça, moi je suis comme ça, mais se dire, bon voilà, ce que vit l'autre me rappelle qu'il y a une autre rive sur laquelle je peux passer, il y a une profondeur d'amour, à laquelle je suis aussi appelé, mais je vais avancer dans cette profondeur, pas malgré l'action, mais aussi en sachant me servir de l'action elle-même. Bon, il y a le fait de réduire le plus possible, enfin de ne pas se laisser bouffer par son boulot, c'est une chose, mais il y a le fait de vivre dans un autre esprit l'action. De telle manière qu'au lieu de s'opposer à l'union, au lieu de s'opposer à la contemplation, de s'opposer à cette attitude de passivité, elle puisse au contraire nous y préparer. Et c'est là que je dis que le mot-clé c'est obéissance. La crainte du Seigneur, nous avons écouté ce matin, est le commencement de la sagesse. La sagesse de la femme, c'est un cœur qui voit parce qu'il est ouvert et qu'il accueille le réel. La sagesse de l'homme, le discernement, quand il a besoin, pour bien accomplir la volonté de l'unique maître, c'est la crainte du Seigneur. Au sens de Dieu premier servi. Comme disait Louis Martin, comme aimait dire le père de la petite Thérèse, au sens de unique absolu, la volonté de Dieu dans ma vie. Cette crainte du Seigneur, même si elle est vécue de manière un peu sèche, voyez, mais ça là où il faut se rappeler que Dieu se contente de notre bonne volonté, crainte du Seigneur, peut conduire à un discernement objectif serein qui peut être simplement une sorte sans qu'il y ait une illumination, mais simplement la vérité se fait dans le cœur des hommes de bonne volonté, et l'homme peut parvenir à un jugement objectif dans les situations. Il peut même y parvenir plus facilement que la femme, au sens où il a cette capacité d'envisager les choses par voie à la décision à prendre, une décision à prendre, dans laquelle il par sa distance qu'il a par rapport au il est moins, je veux dire, encombré par les sentiments, disons, et il peut arriver à, comme dit Jean-Paul II, à une plus grande perspicacité dans la façon d'envisager les problèmes. On reparlera de ça par la suite. Peut-être que pour certains d'entre vous, la volonté de Dieu, c'est ce qu'il faut aimer les autres. Et donc, si je fais des choses pour les autres, si j'aime les autres, ben, je suis dans la volonté de Dieu. Non. La volonté de Dieu, c'est tout ce que j'ai à faire, minute après minute. De croire que Dieu s'occupe de moi et veut me guider et m'inspirer, même jusque dans les plus petits détails de ma vie. Et ça, il faut reconnaître qu'on vit dans un monde qui ne nous aide pas beaucoup à croire ça. Parce que, comme dirait Benoît XVI, on a mis Dieu hors jeu. Hors jeu de nos histoires, hors jeu de l'histoire de l'humanité, hors jeu de la vie concrète. Et il faut remettre Dieu en jeu. La première manière de remettre Dieu en jeu aussi pour lui ouvrir notre cœur, encore une fois, c'est de se situer par rapport à sa très sainte et adorable volonté dans toutes les circonstances de notre vie. Ce qui suppose aussi un regard de foi, c'est-à-dire si je ne crois pas que la providence divine est là, et qu'elle s'occupe de moi, encore une fois, comme dit le catéchisme, jusque dans les plus petits détails, ben je risque de ne pas pouvoir rester dans cette attitude de serviteur, les reins sains, la lampe allumée, qui, face à son maître, tâche de rester à l'écoute de sa très sainte et adorable volonté. Par rapport à ça, il y a eu des conversions qui se sont vécues ou... entre faire des choses pour Dieu et écouter la volonté divine. Ça me rappelle, mais je l'ai déjà cité, hein, Jean-Paul II demandant à André Frossard, mais qu'est-ce que c'est les intégristes en France? Des gens qui veulent à tout prix faire la volonté de Dieu, que Dieu le veuille ou non. C'est-à-dire, c'est fait une idée de la volonté de Dieu, puis on suit l'idée au lieu de rester dans cette attitude d'écoute instant après instant. Bon, alors pour consoler les hommes, enfin, je vais terminer par la Sainte Thérèse d'Avila. Il importe beaucoup, je le répète, de comprendre que Dieu ne nous conduit pas tous par le même chemin. Si Dieu vous conduit par la vie active, ne murmurez pas d'en voir d'autres se livrer aux douceurs de la vie contemplative. Si votre femme passe des heures devant le Saint-Sacrement et que ça vous ennuie, ne murmurez pas, mais pensez que dans la vie active, il peut y avoir un chemin d'ouverture à la contemplation. Si on comprend la manière de vivre l'action elle-même, soit sanctifiante. Bon, elle dit, hein, qu'importe qu'on soit, que ce soit par la contemplation, par l'oraison, ou qu'on soit en train de faire le ménage, ou de... du moment qu'on est dans la volonté de Dieu.
D'où, me semble-t-il, enfin en tout cas c'est un combat pour moi, ça l'a été pendant un certain temps, moi maintenant, mais d'où l'importance de ne pas se comparer. Ça, c'est... Enfin, pour moi, ça a été un combat très difficile.
Et pour moi, le combat a été dans le respect absolu de ce que mon conjoint vivait. On peut porter des jugements, on peut... Et donc, pour la femme, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire sur soi pour respecter le chemin que Dieu prend pour son époux. Je dirais que dans l'adoration, Dieu nous transforme aussi et que nous pousse peut-être aussi à agir, nous les femmes. Donc, quand on est devant son sacrement, il se passe aussi des choses. Et il y a, comme disait le Père Louis, il y a peut-être une tendance quelquefois pour la femme à avoir, effectivement, on est plus ouverte peut-être à accueillir le Seigneur. On reçoit peut-être plus de manière affective, donc on a tendance à dire « mon petit Jésus, je l'adore », voilà, et on se complaît un peu là-dedans. Et moi, je m'aperçois que, en fait, Jésus aussi nous conduit, nous transforme et nous conduit à nous offrir aussi, personnellement, vous voyez, à faire une offrande de nos vies. Et ça veut dire, ça se rejaillit, je me rends compte dans le concret. Et je vois bien que dans l'adoration, je suis renvoyée finalement, quelquefois, à ma maison et à me dire, bon, il faut que j'organise mieux ma vie à la maison, que je m'organise pour que ma maison soit bien tenue, etc. Finalement, c'est une grâce, ça rejaillit sur ma famille. Et c'est vraiment dans l'adoration, finalement, que je suis renvoyée à ma famille et à mon devoir d'État.
L'action est nécessaire pour rendre visible. C'est l'aspect de l'Église comme corps du Christ. Donc le zéro a besoin du un. Comme le un a besoin du zéro. Hein? Je termine en reprenant la conclusion du cardinal Ratzinger qui, après avoir réfléchi sur le rôle de la femme, la place de la femme, rappelle que la condition humaine de l'homme et de la femme créée à l'image de Dieu est une et indivisible. C'est-à-dire que Encore une fois, fondamentalement, nous sommes faits pour la même vie divine, nous recevons la même grâce. Hein. Et Saint Paul dit, vous tous qui avez baptisé, vous tous baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous, vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. Je veux dire que la vie de la grâce, elle n'est pas limitée par les prédispositions naturelles. Donc il y a des chemins différents, il y a des inclinations spontanées différentes, mais l'homme et la femme sont appelés aussi à s'éclairer l'un l'autre et à céder l'un et l'autre, à pas du côté de l'homme, à pas, je dirais, oublier que l'action doit s'enraciner dans une union, mais sa manière, lui, de s'unir à Dieu, c'est de rentrer dans l'obéissance, dans un esprit d'obéissance, d'abord. Et puis la femme, elle doit pas oublier que l'ouverture de son cœur à l'amour de l'époux demande à se vivre dans l'obéissance, parce qu'en fait, c'est une seule et un même mouvement. Voyez, aimer Dieu, c'est enfin se laisser aimer par Dieu, c'est à la fois accueillir sa tendresse et en même temps accueillir sa volonté, parce qu'il est à la fois époux et maître. Inséparablement. Donc à certains moments privilégiés, on sent qu'on accueille sa tendresse, on se laisse toucher. Et à d'autres moments de la journée, on accueille sa volonté. Plus au niveau de la volonté que ça se situe. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Dans ce et sa justice, il y a tout l'aspect de s'ajuster à Dieu. En rentrant dans cette obéissance qui, comme disait Jean-Paul II, est le nouveau nom de l'amour. Voilà, on va peut-être entrer dans la passivité maintenant. Ah, à moins qu'il y ait des questions qui... On garde la messe à midi ou on la met à midi et quart ? Midi, ça va, vous avez le temps pour les biberons avant la messe, c'est possible. Alors, écoutez, le Saint-Sacrement est exposé dans l'église actuellement, donc vous pouvez prendre un temps de passivité pure, si je puis dire, devant le Saint-Sacrement. Vous pouvez écouter votre conjoint. Votre passivité, vous avez différents exercices qui vous sont proposés. Vous pouvez écouter la nature en sortant et en vous promenant un peu dehors. Mais on essaie de se retrouver vers midi, donc dans l'église.